Débat IMO, une émission proposée par Wininvest sur Radio IMO et Radio Territoria.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de Débat IMO en partenariat avec Wininvest. Un sommaire de l'émission qui va être, vous allez voir, extrêmement intéressant à observer. On va parler un petit peu de politique, voire même de géopolitique et comment finalement ça peut avoir un impact et des incidences sur le marché de l'immobilier en France mais aussi à l'étranger. Pour en parler, nous avons le directeur général de Wininvest France qui est avec nous. Bonjour Xavier Bellevaux.
Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec nous.
Ben, de rien, merci de m'avoir invité.
Avec cette édition que l'on a construite autour du monde géopolitique, c'est-à-dire je crois que vous êtes le seul réseau immobilier à avoir intégré cette notion du débat. Je trouve que c'est extrêmement intéressant d'en parler avec toutes celles et ceux qui nous écoutent. Expert reconnu dans le monde de l'immobilier, président de l'Institut du management des services immobiliers, membre du Conseil national de l'habitat, et il est également... Depuis hier, officier, on lui a remis les insignes de la Légion d'honneur.
Du mérite.
Du mérite.
Du mérite. C'était à l'hôtel Matignon. D'ailleurs, voilà, on l'a vu un petit peu à distance. Il est avec nous. Bonjour Henri Buzicazo.
Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec nous. Pour participer à cette émission, je le sais que vous avez une vision aussi politique des dispositifs du logement en France, mais pas que, et des impacts. Et c'est bien de cela dont on va parler. Voilà. Un des principaux influenceurs sur LinkedIn. Voilà. Il y en a un qui maîtrise très bien les réseaux sociaux et qui pourrait même d'ailleurs se reconvertir comme enseignant sur les impacts des réseaux sociaux, qui ne mâche pas ses mots, hein, qui parle vrai, qui parle directement. C'est toujours agréable d'ailleurs. Il est le président d'un groupe majeur dans l'immobilier français, président du groupe Gambetta. Bonjour Norbert Franchon.
Bonjour Sylvain, et je rassure, je suis encore en France, je ne suis pas encore à Dubaï en tant qu'influenceur.
Bravo.
Mais peut-être bravo. Demain.
Non, mais c'est bien. Restez en France, voilà. Dubaï, c'est bien, c'est une ville intéressante.
Ça dépend pourquoi.
Oui, mais non, mais c'est une ville intéressante.
D'ailleurs, tu serais triste là-bas.
Ouais. Je connais un philosophe de l'habitat qui est formidable, qui dit que ce qu'on devrait faire à Dubaï, c'est raser la ville. Mais non, c'était de l'humour. C'était de l'humour. Voilà, on a quelqu'un sur le plateau qui nous parlera tout à l'heure justement des innovations, mais également il participe au débat puisque il a une forte culture financière dans le domaine de l'immobilier. Avec nous, bonjour Julien Gamiette.
Bonjour Sylvain.
Merci. Vous êtes le patron de Formacast et vous êtes essentiellement aussi un financier. Vous maîtrisez assez bien les rouages de la finance France, mais aussi à l'international. Alors, il est avec nous, on a réussi à l'avoir, c'est un privilège et on est très heureux. Moi, je l'avais connu à l'époque où il avait fondé sa première start-up, qui s'appelait Prélo. Il est depuis le début janvier, me semble-t-il, 2025, il a été nommé directeur général du Kretz Club. Il est avec nous, c'est Ludovic de Jouvencourt.
Bonjour. Bonjour, Ludovic. Merci de m'accueillir.
Merci et que des belles choses. Merci de prendre le temps, Ludovic, parce que je sais que vous êtes très très occupé et c'est un plaisir de vous avoir à distance.
C'est toujours un plaisir.
À ce sujet, nous allons recevoir d'ailleurs le directeur général de Crête Real Estate sur Parlons Immo samedi prochain sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Voilà, le sommaire de l'émission, c'est comment finalement on va parler à la fois d'immobilier mais aussi de politique. On va faire un focus, si vous voulez bien, les amis. Sur l'élection de Donald Trump comme le 45e et ensuite 47e président des États-Unis, une élection qui n'est pas, on l'a bien vu, hein, sans faire grincer à tous les niveaux, hein, que ce soit l'industrie, l'immobilier, les taux, les flux internationaux. Apparemment, la banque et les bourses mondiales se remettent. Apparemment, il y a des signaux qui sont plutôt bons. Est-ce que c'est lié au rétropédalage de Donald Trump dans ces annonces dont on a du mal d'ailleurs à décrypter la ligne directrice. Bon, voilà. On va commencer également dans notre émission. C'est une tradition et on est très attaché aux traditions par l'édito de Xavier Bellevaux, le directeur général de Wininvest. Et ensuite, je vous propose, les amis, qu'on fasse un débat avec justement ces questions qui seront posées autour de ces impacts, parce qu'on ne peut pas ne pas dire que les effets géopolitiques des politiques, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, que ce soit aux États-Unis, n'ont pas d'incidence sur les marchés, sur les banques qui prêtent pour l'accession à la propriété, même si on a la chance d'avoir un pays qui est très protecteur de ce point de vue-là. Ensuite, les amis, vous savez, comme chaque édition de Débat Immo. On fait un focus sur le vrai du faux. On aura le patron d'Artemis Courtage qui sera avec nous à distance. C'est Ludovic Usieux, parce que vous posez vos questions sur les taux d'intérêt, sur les mouvements, et on vous répondra en direct. Et enfin, on fera un focus avec Julien Gamiette qui est avec nous sur le plateau, sur Formacast, une innovation. C'est comment le droit et l'intelligence artificielle peuvent favoriser le business dans l'immobilier. C'est tout un numéro. C'est parti pour l'édito. L'édito, Xavier, c'est à vous.
Merci Sylvain. Alors, effectivement, au terme d'un feuilleton politique dont seuls les États-Unis ont le secret, quoique on commence peut-être en France aussi à prendre un peu la même direction, Donald Trump est redevenu effectivement fin 2024 47e président des États-Unis après y être déjà été 45e. Une nouvelle instituture qui a commencé le 20 janvier 2025 et qui secoue l'économie mondiale. Dès son retour annoncé, les marchés ont frémi, les économistes ont multiplié les scénarios et les tensions géopolitiques se sont ravivées. Trump revient avec les mêmes ingrédients, American First, mesures protectionnistes renforcées, bras de fer avec la Fed et sanctions croisées entre la Chine et l'Union européenne. Résultat, selon effectivement aujourd'hui Roland Berger, ces politiques pourraient coûter 533 milliards de dollars à l'économie européenne d'ici 2029 et 749 milliards directement pour les États-Unis. Et pendant ce temps, le spectre de la récession américaine refait surface. Selon Reuters, la probabilité d'une récession dans les années à venir atteint désormais 45%, un niveau jamais vu depuis décembre 2023, Sylvain. Parce qu'en réalité, dans ce contexte, l'immobilier est en première ligne, car quand les ménages hésitent à acheter ou doivent vendre en urgence, quand les prix du neuf grimpent mais que les stocks augmentent, qu'est-ce qui se passe dangereusement? On a actuellement 500 000 maisons neuves à vendre. Wow. C'est un record depuis 2007, il faut le savoir. Cela nous concerne aussi, même si on est à des milliers de kilomètres.
Alors, et la France dans tout ça?
Eh bien, la France, côté hexagonal, la situation est déjà tendue. Un déficit public autour de 6%, un gouvernement à la recherche d'économies dans tous les sens, une ministre du logement qui fait ce qu'elle peut, mais qui a aussi un budget qui est quand même, on le connaît, très limité. Une croissance, on peut raconter ce qu'on veut, mais elle est quand même en berne. Une rumeur persistante sur la suspension actuellement des dispositifs de MaPrimeRénov. Si les États-Unis entrent en récession, l'effet domino, mine de rien, est quand même assez inévitable. La baisse des recettes touristiques américaines pourrait impacter nos régions les plus dynamiques et la prudence reste de mise, même si effectivement on a quelques frémissements depuis quelques mois. Mais alors, les conséquences concrètes pour l'immobilier français, ça donnerait quoi? Les taux, c'est une question qu'on doit se poser, est-ce qu'ils vont rebondir? Parce que je vous rappelle qu'il y a quelques mois en arrière, tout le monde nous disait on va aller en dessous des 3, on va peut-être aller à 2,50. La réalité aujourd'hui, c'est qu'avec la politique de Trump, on pourrait rebattre complètement les cartes et pourquoi pas s'éloigner le plus possible dans du sous du 3. Sur les autres éléments, quand on parle de taux, difficile de ne pas penser effectivement à ceux qui montent chaque jour des dossiers de financement. Et on aura pas mal de questions pour Ludovic Usieux, cofondateur d'Artemis Courtage, qui pourra nous éclairer. Quel impact également pour les investisseurs internationaux? Parce qu'en réalité, l'Europe peut-elle redevenir un refuge pour les capitaux inquiets? Ça, c'est une question à se poser. Ou bien la peur et l'instabilité globale freinent de tous les mouvements? Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, on nous parlait qu'on allait recevoir un kit de survie. Alors après, il y a plein de choses qui se disent.
Qu'on n'a pas reçu, finalement.
Qu'on n'a pas reçu pour le moment, mais je crois que ce sera un guide. Donc voilà, du côté haut de gamme, effectivement.
Par contre, j'ai reçu le truc de la sécurité sociale pour la coloscopie. Il n'y a pas de souci. Ça, je l'ai reçu.
Effectivement, ça, c'est un autre sujet. Écoute, chacun ses problèmes, en réalité. Du côté haut de gamme, l'investisseur étranger reste-t-il au rendez-vous? Ça, on pourra en parler effectivement avec Ludovic de Jouvencourt, le DG aujourd'hui du groupe Crête, qui observe au quotidien l'appétit ou les freins des acheteurs premium, qui nous dira un peu ce que lui constate sur le terrain, et ça sera très intéressant. Alors le neuf, qu'est-ce qu'on fera dans tout ça? Le secteur, il souffre déjà d'un triple choc, les coûts, le foncier, la régulation, le contexte mondial va-t-il achever ou pas freiner ces élans qu'on essaye de mettre en place. Et sur le neuf qui souffre déjà en crise sans précédent, on aura l'occasion d'en parler avec toi Norbert pour voir un petit peu dont le groupe Gambetta est en première ligne sur ces sujets. Et enfin, sur la politique du logement dans son ensemble, le moment était venu pour la France d'ouvrir un nouveau chapitre. Et là, bien sûr, on pourra compter sur Henri pour en parler avec nous, fin connaisseur des politiques. Voilà, avant de clôturer mon petit édito, petit clin d'œil sur l'IA, parce qu'effectivement, c'est quand même quelque chose qu'on entend de tous bords. Même les politiques s'y mettent. Parfois un peu trop littéralement, parce qu'on a Andrew Cuomo, qui est l'ancien gouverneur de New York, qui a récemment intégré une citation issue de ChatGPT dans son plan pour résoudre la crise du logement. Oui, littéralement un lien hypertexte qu'il a repris sur une réponse générée par l'IA, insérée dans un document officiel. Ce petit moment de flottement éditorial n'en est pas resté moins révélateur. L'intelligence artificielle s'installe effectivement jusque dans les sphères politiques et s'impose comme un outil ou un réflexe dans la façon dont les villes doivent penser le logement demain. Mais attention à la relecture tout de même. Merci, messieurs.
Eh bien, dis donc, ça mérite des applaudissements, bravo. Faut perdre la radio, hein, Xavier. Merci pour ces mots.
Ah chacun écoutez, son métier. Voilà. Mais je crois que j'y suis, là. Non.
Je vous propose, les amis, maintenant, qu'on fasse place au débat. Nouvelle édition de Débat IMO, le débat entouré de professionnels et d'influenceurs du secteur avec Norbert Penchon, président du groupe Gambetta, Henri Buzy-Cazot, président de l'IMSI, avec Julien Gamiette qui est avec nous, le patron de Formacast, Ludovic de Jouvencourt, directeur général du Kretz Club, et enfin avec vous, Xavier Bellevaux, directeur général de We Invest. Alors, c'est important parce que justement, dans ce débat, on a vu que dans votre édito, il y a quelque chose qui apparaît finalement assez bien. C'est ce que j'appelle le principe de permacrise. En fait, une crise chasse l'autre. On n'est plus dans un contexte dans lequel on a finalement entre des périodes de flottement ou de bonnes taux où on a un peu rasé gratis depuis 15 ans. On a l'impression depuis ces trois dernières années véritablement qu'on est entre double, triple peine, quadruple peine sur le marché. Un marché qui s'est quand même littéralement effondré. Le marché donc retrouvé un peu de couleur au début de l'année 2025. Les taux baissaient, les acheteurs reviennent un peu sur le marché. On se dit que c'est la fin. L'élection de Trump signe un retour peut-être aux difficultés. Ça, c'est un peu l'idée. Mais justement, vous, de votre point de vue, quand vous voyez cette élection et ces rétropédalages, vous, Xavier Bellevaux, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, on change un peu de dimension. Est-ce que finalement, l'Europe n'a-t-elle pas compris que quelque part, ce qu'elle pensait être comme quelque chose qui allait durer est en train de s'ébranler? Et que c'est peut-être l'occasion, parce que peut-être voir un peu le positif, pour l'Europe, de prendre conscience de ses liens de dépendance avec les économies internationales.
Je pense qu'il y a une double lecture à avoir. La première est de se dire que peut-être que cette crise aux États-Unis est plutôt positive en réalité pour l'Europe, parce qu'elle va nous contraindre et nous obliger à ouvrir, en tout cas ouvrir nos yeux. La situation économique, elle est ce qu'elle est. Elle n'est pas florissante. Ça va pas. Donc à un moment ou à un autre, il faudra bien qu'on recherche des économies à des endroits et qu'on aille bien plus loin que les mesurettes qu'on voit arriver de tous bords, parce que ça ne réglera pas le problème. Donc je pense qu'effectivement, il y a un gouvernement en place, il y en aura un autre demain. Mais en réalité, il y a des vraies questions qui seront à se poser. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais compris, ça fait plus de 20 ans que je fais de l'immobilier, pourquoi justement l'immobilier est toujours un ministère quand on en a un, ou quand il ne change pas tous les 5 fois, je crois qu'on en a changé 5 fois, si je ne dis pas de bêtises, et ça, Henri pourra nous le dire, mais depuis ces 5 dernières années, 6, voilà, de nous dire, mais comment on peut, une bonne fois pour toutes, en tout cas, entamer des vraies mesures de changement, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de mesures de changement. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il est aussi de se dire que il faut qu'on se réveille. Les années qu'on avait connues en 2020, pendant la crise du Covid, et 2021, c'est des années qui étaient exceptionnelles, qui n'étaient pas normales. La réalité, je pense qu'aujourd'hui, si on a un marché dans la transaction actée à 900 000 ventes par an, c'est le bon curseur. 1,2 million, on ne les aura pas si facilement, on les retrouvera. Moi, je pense qu'on ne les retrouvera pas, j'en suis intimement convaincu. Enfin, quand on a des taux entre 3 et 4% aujourd'hui, et rappelez-vous, nos parents, ils achetaient, et nos grands-parents, à 8-12, alors effectivement, l'inflation n'était pas la même, etc. Mais ce n'est pas le seul sujet. Donc oui, il y a une dynamique à retrouver dans l'immobilier, et je pense que surtout, il y a une place à redonner au logement. Et quand on parlera tout à l'heure avec Norbert Duneuf, aujourd'hui, on ne construit plus de 3 pièces, c'est une réalité, voilà, on n'en construit plus, et ça, c'est une vraie problématique, parce qu'on a de plus en plus de divorces, on a de plus en plus de gens qui se séparent, donc on a une situation d'urgence, le parc locatif, il est catastrophique, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus de biens, alors effectivement, il y a aussi un combat, c'est-à-dire que l'État met en place des choses sur tout ce qu'on doit mettre sur l'économie d'énergie, etc., sur le DPE, sur la rénovation énergétique, c'est parfait, mais en réalité, par moment, est-ce que c'est pas des vœux pieux? Parce qu'en attendant, ça ne loge pas nos Français et nos Françaises, et on a besoin de les loger.
Intéressant comme débat, justement. Je vais commencer par vous, Henri. On le voit, hein, l'impact politique, et d'ailleurs dans le logement, tout est politique, pour le dire. Mais on se rend compte finalement que la France n'est pas la seule à avoir des gros problèmes dans l'immobilier. Et on voit bien comment, finalement, de manière collatérale, directe ou indirecte, les effets de la politique internationale et l'élection de Donald Trump a pu rebattre les cartes. Est-ce que vous le pensez, vous ?
Oui, enfin, moi je constate aujourd'hui, Xavier le disait, la probabilité d'effets heureux. Alors, tout ça sur fond de possible désordre intégral, et je ne sais pas si dans 2 mois ou 3 mois, les économies européennes vont pas être chamboulées par quelques décisions de Donald Trump, on ne sait pas laquelle, parce qu'effectivement tout ça est illisible. Bon, aujourd'hui, moi je constate que le 17 avril dernier, Christine Lagarde, voilà, en tant que patronne de la BCE, a corrigé à la baisse de 25 points de base encore les taux d'intérêt, et que elle l'a fait parce que les décisions de barrières douanières de Donald Trump, qui sont désespérantes pour le monde entier, hein, le sont aussi pour l'Europe. On est passé en moyenne de 3% de droits de douane à 13%, tout ça en quelques heures, hein, sur la décision de l'homme le plus puissant du monde. Et pour compenser ça, s'agissant de la Banque Centrale Européenne, avec un impact favorable, bien sûr, sur l'un des pays qui s'appelle la France, une baisse des taux pour redonner de l'oxygène à des entreprises françaises, notamment, qui sont en train de se faire asphyxier par des droits de douane. Donc, première conséquence, elle est heureuse. C'est-à-dire qu'on voit des autorités monétaires européennes apporter des correctifs par anticipation, et ça va plutôt être heureux pour les emprunteurs français. Deuxièmement, et ça aussi ça a été dit et aussi par vous Sylvain, l'histoire de la valeur refuge et du territoire refuge. Alors déjà, valeur refuge, incontestablement, les Français ont le réflexe, ils l'ont eu pendant la pandémie, qui était un grand malheur, et ils sont en train de l'avoir aussi, le réflexe de se dire, quand tout se déglingue, rappelez-vous, chute des bourses, et donc de la bourse, évidemment, de Paris, il y a quelques jours, eh bien, on interrogeait les Français, ils disaient, bon, moi, l'immobilier, au moins, ne connaît pas ces variations, alors que j'ai un petit portefeuille d'actions, et que là, j'ai perdu plusieurs milliers d'euros. Bon. Ça, c'est à l'échelle micro des ménages français. Et vu du monde, vu du reste du monde, là, il y a des personnes plus compétentes que moi pour le dire, je pense que le marché français, l'immobilier français, ne parlons que de la France, mais peut-être plus largement de l'Europe, vont constituer des refuges. Quand on voit l'un des plus grands pays du monde complètement agité, avec des incidences sur les bourses, sur les valeurs, sur les entreprises, voilà, l'immobilier, à mon avis, au galop, retrouve ce côté valeur refuge. Voilà, donc sur une toile de fond qui est vraiment pas stabilisée, tout peut arriver. Moi, je vois deux bonnes nouvelles pour l'instant.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, puisqu'on a fait un corollaire ici avec l'augmentation des métaux et des minerais précieux. Mmh. Et le cours de l'or s'est littéralement envolé.
Absolument.
On a même vu, et il y a des banques en Suisse qui le font, dans lesquelles, au lieu de travailler sur l'étalon de la monnaie fiduciaire, travaillent sur un étalon or. Donc on convertit en fait ses revenus sur des dépôts en or, et c'est on voit bien que c'est le réflexe du moral des Français mais des Européens. Norbert Fanchon, alors vous n'êtes pas les mains mortes, hein, dans vos différentes prises de parole, vous êtes très très largement suivi, vous avez déjà annoncé la catastrophe à l'époque, bien évidemment, et vous dites très clairement, alors vous me dites si je me trompe, mais moi je traduis dans vos prises de parole le fait que tout est politique et ça doit être politique. Et sans une démarche proactive sur le logement des Français, d'ailleurs vous mettez en point finalement les contradictions des précédents gouvernements et peut-être un peu de celui-ci, sur justement ces injonctions liées à l'absorption de cette démographie qui aujourd'hui peine à trouver un logement, c'est une véritable catastrophe, hein, ce que disait Olivier Gravier tout à l'heure, le marché de locatif privé s'est réduit de moitié, et le marché de la promotion carrément est également. Donc quel constat vous faites aujourd'hui à la lumière de tout ce qui se passe, puisque l'élection de Donald Trump est venue finalement quelque part parachever ce qui était déjà assez désastreux dans le monde du logement.
Je suis du même avis qu'Henri, c'est plutôt une opportunité aujourd'hui qu'on doit saisir. Et le « on », c'est la France et le secteur du logement. On parlait des taux tout à l'heure, et Xavier faisait le parallèle entre la situation...
L'Europe aussi ou pas ? Est-ce qu'on peut se dédouaner
un petit peu. Oui.
Comme dirait le général de Gaulle, l'Europe. Ouais. Ayons déjà une politique en France. À partir du moment où on déporte sur l'Europe, soit on rajoute de la réglementation, soit on perd du temps. Et je pense que par rapport à la situation que vous décrivez, on n'a plus de temps à perdre. La situation politique de la France a quand même créé une hausse des taux à 10 ans. C'est-à-dire qu'on parlait effectivement de taux à moins de 3% avant que le président Macron dissolve l'Assemblée nationale, avant que Barnier se fasse révoquer, sortir. Et avant Trump, on était plutôt à 3,50, 3,60 sur le taux à 10 ans. Et le taux à 10 ans, c'est ce qui fait le taux du crédit en France.
Absolument.
Et en fait, on avait une aubaine des taux en
c'est
début d'année.
D'État,
c'est l'emprunt d'État. Voilà. C'est l'OAT 10 ans, donc c'est la dette d'État. Voilà. Et les banques, quand elles font des crédits à 25 ans, en fait, convertissent leur crédit à 25 ans sur le taux à 10 ans de la banque, de l'État français. Et ce qui s'est passé en début d'année, c'est plutôt que les banques de détail aient besoin de faire revenir les clients dans leur banque de détail, parce qu'il y a des gros sujets, je ne vais pas les citer, c'est certains établissements bancaires qui n'ont pas assez fait de crédit. Et donc elles ont fait des taux bonifiés. Mais un taux de crédit à 3%, un immobilier à 20 ou 25 ans, ça n'a pas de réalité économique quand vous avez un OAT à 3,60, 3,70.
C'est clair.
Et l'élection de Trump et les droits de douane, ben l'OAT aujourd'hui, il est à 3,20, 3,30. Donc, un vrai effet aubaine, c'est que je pense qu'on pourra garder des taux à moins de 3,50, entre 3
donc
et 3,50.
Donc l'élection de Donald Trump, moi je l'entends, a eu un effet positif.
Oui. Et quand vous regardez les prévisions économiques...
C'est pas évident, hein, quand on dit comme ça.
C'est une lecture, il nous contraint indirectement, il nous contraint, je pense, à nous remettre en question, à avancer. Et au niveau de l'Europe, ils sont obligés d'essayer, tu le disais tout à l'heure, de se prémunir et d'avancer. Et ça va nous permettre de gagner, à mon avis, des parts de marché qu'on avait un peu perdues.
Et la prévision économique, c'est moins 0,2 de croissance en France, moins 0,2 de PIB. Et pour être très clair aussi, la politique menée depuis 2017 dans le logement, c'est moins 1% de PIB. Donc ce qui est plus désastreux pour l'économie française, c'est plutôt d'avoir démonté le fait qu'on veuille construire, qu'on a besoin de construire en France, que la politique de Trump sur les droits de douane. Et donc si on veut recréer de la richesse, rappelons une chose, c'est que le logement, c'est franco-français, c'est fait par des entreprises françaises, pour des Français, avec des matériaux essentiellement français. Et donc les droits de douane sur le logement... Entre la baisse du dollar, la baisse du pétrole et l'augmentation des produits manufacturés, il n'y aura pas d'hausse de coûts travaux comme on a pu connaître. C'est ce que vous rappelez, Sylvain, sur le secteur multicrise qu'on a connu en Ukraine.
On a quand même vu sur les coûts, par exemple, je prends pour la rénovation énergétique, le coût du PVC, ouais, par exemple, ou de certains types de matières dans lesquelles nous sommes dépendants. Là, on a vu des effets, ne serait-ce que sur, je prenais par exemple les composants des pompes à chaleur et des panneaux photovoltaïques, ça a pris 20% quand même.
Oui, mais baisse du dollar couplée avec la baisse du pétrole, parce qu'en plus,
pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Xavier, qui est très intéressant, c'est vrai que nous, on a connu une époque, on fait partie d'une génération qui a connu une époque à 12% de taux d'intérêt, mais sur une inflation qui était plus élevée, donc on avait ce qu'on appelle les taux d'intérêt négatifs. On va donner la parole à Ludovic de Jouvencourt. Je suis ravi de vous avoir à nouveau sur le plateau, Ludovic. Et encore, félicitations pour votre prochain heureux événement, parce que vous allez bientôt vous marier, on est ravis. Voilà. Maintenant, tout le monde le sait.
Vous êtes c'est quand, parce qu'il faut, c'est quand, faut que je le prévoie. Hein,
oui, voilà.
Je suis pas allé tous les jours.
Oui, c'est vrai que
c'est le 7 juin.
Voilà. Et on sera pas très nombreux, on sera 600 ou 700 à venir au mariage. Alors, Ludovic, vous êtes directeur général du Crets Club. Quelques mots sur le Crets Club. Alors Crets, bien évidemment. Voilà, famille Crets. Voilà, on va pas refaire la.
Exactement. Politique, voilà. Le Crest Club, c'est une communauté d'investisseurs fermée et privée, dans laquelle les Crets font profiter des opportunités immobilières dans lesquelles ils investissent personnellement. Avant, ils le faisaient en famille, et aujourd'hui, ils ont décidé d'ouvrir à un cercle limité d'investisseurs. Et en plus, on profite de ce cadre de confiance fermée pour développer son réseau, faire du business ensemble. Donc, c'est vraiment dans cette démarche que le Crest Club a été créé.
Alors, le Crest Club, dimension européenne et internationale.
Tout à fait.
Alors,
on propose une première opportunité en Europe cette semaine.
Alors, pour faire partie du Crets Club, il faut montrer patte blanche. C'est des tickets, on est sur du luxe, du prestige. On est sur des tickets très élevés.
En termes de biens, ce qu'on propose, les opportunités, c'est très souvent du luxe et du prime, mais pas que. On va être relativement opportuniste. Grosso modo, on analyse 100 opportunités pour en proposer une seule à nos investisseurs. En revanche, je vous rejoins dans le terme « montrez pas de blanche », mais c'est pas une question d'argent ou de montant, parce qu'en fait, une personne peut commencer à investir à partir de 1 000 euros sur les opportunités. C'est surtout une question de... bien fixé, enfin bien fité et bien correspondre avec les valeurs du club. Et pour ça, il y a un entretien qui permet de définir si une personne peut rentrer et peut devenir membre chez nous. Et donc tous les profils sont évidemment arbitrés avec la famille Crest.
C'est quoi les valeurs du club? Qu'est-ce qu'il pourrait être, par exemple?
Évidemment.
Voilà, par exemple, moi je suis très sympa.
Très fort.
Moi je suis très sympa. Ça va suffire ou?
Les valeurs du club sont tournées autour d'un intérêt et une passion très forte pour l'immobilier. Des gens qui veulent profiter d'un réseau de confiance fermé pour continuer à développer leur business. Donc on a souvent des entrepreneurs, mais pas que, des gens qui ont des postes à responsabilité dans des grandes entreprises. Et surtout, c'est les valeurs familiales. Je pense que c'est lisible de l'extérieur. Les Creds font du business en famille. Évidemment, c'est pas quelque chose qui est construit pour la télé ou pour Netflix. C'est ils vivent comme ça. Et donc aujourd'hui, c'est toujours plus agréable de travailler en famille ou avec des gens avec qui on est content de passer du temps, plutôt que des gens avec qui on ne s'entend pas très bien.
Oui, c'est sûr que quand on voit aussi la dimension que ça a pris, c'est une success family extrêmement intéressante à observer. Alors justement, vous qui êtes lié, alors vos clients, ce sont des cadres dirigeants, ce sont aussi des family office, ce sont aussi des personnes qui ont vendu leur boîte et qui veulent investir leur argent, ils l'investissent dans l'immobilier. Et alors justement, les impacts à la lumière de ce que vous avez entendu avec notre ami Henri Buzicazo et Norbert Franchon ainsi que Xavier Bellevaux, c'est quoi votre analyse par rapport à cette élection de Donald Trump, en sachant que vous êtes aussi pas mal développé aux États-Unis?
Alors, je rejoins tout à fait ce qu'on relevait mes confrères. J'aimerais ajouter un élément qui est important, c'est que nous, en termes de clientèle et typologie de produits, on est très orienté vers l'international. On considère qu'aujourd'hui, une très forte proportion de nos clients sont des étrangers et l'entreprise Creds fait deux fois la plus grosse transaction de Paris en 2023 et 2024, et c'est deux Américains qui achètent. Comment je lis la situation? Comment on lit la situation? Aujourd'hui, on voit que Donald Trump a une politique très protectionniste de son économie avec cette augmentation des tarifs douaniers. Et donc, la conséquence, elle est que ça crée beaucoup d'instabilité sur les supports d'investissement préférés des investisseurs étrangers. Et typiquement, c'est le cas du Nasdaq, du S&P 500, etc. Cette instabilité fait que ça crée un réflexe systématique vers des valeurs refuges, et vous l'avez cité juste avant, l'or atteint des records, le Bitcoin reprend très très fort, et typiquement l'immobilier de luxe français, typiquement c'est le cas à Paris comme en Provence, est une valeur refuge. On considère qu'un bel appartement parisien peut être l'équivalent d'une belle pièce d'or, enfin un beau lingot d'or, comme une maison en Provence, et ça on constate. Ça a été le cas déjà depuis le début de la crise. L'immobilier de prestige et de luxe a mieux résisté, là où en fait l'immobilier très retail a beaucoup plus souffert. Et ben nous, on considère comme une opportunité le fait que Donald Trump ait cette politique protectionniste, parce que ça va continuer à attirer des volontés d'investissement des capitaux étrangers vers la France. Évidemment, je parle surtout du luxe.
Alors les chiffres corroborent absolument ce que vous dites, puisque immobilier de prestige, immobilier de luxe, immobilier atypique ne connaît pas la crise. Depuis les deux dernières années, ce sont des croissances à deux chiffres. Alors même qu'effectivement, le middle gamme ou la primo-accession notamment a beaucoup souffert. Et si je vous disais finalement que vos clients, quand ils achètent leur maison en Provence, très sympa d'acheter en Provence, ils mettent l'argent au coffre, finalement.
C'est exactement ça.
C'est de l'argent mis au coffre. C'est exactement comme ça qu'on définit. D'ailleurs, la France présente ces éléments. Un commentaire là-dessus, vous, le financier de formation que vous êtes, Julien.
Oui, moi, ce que j'ajouterais, et donc j'abonde dans le sens de ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est que dans un contexte d'incertitude, voire de perte de confiance vis-à-vis de l'État, on voit prospérer l'intérêt pour la finance personnelle. Et donc on voit monter la valeur des crypto-monnaies, on voit des initiatives comme le Creds Club qui ont à mon avis vocation à prospérer, et on voit aussi des médias et des applications d'investissement, de finances personnelles qui se développent.
Autrement dit, si on devait traduire, ces effets-là renforcent, parce qu'on voit bien que tout ça c'est lié à la perte de confiance, Donc il y a quand même une peur ambiante qui dit, bon, il faut peut-être que je place mieux, que je fasse attention, que ça reparte. Comment vous traduisez ça? Est-ce que c'est est-ce qu'on se dit, on reprend confiance, on se dit, tiens, bah, finalement, il nous met la tête dans, dans les choux, et puis on prend conscience, ce que vous dites, c'est une opportunité, Xavier. Trump est en train de mettre appuyé là où ça fait mal, quelque part.
Moi, je suis naturellement un garçon optimiste. Donc oui. ça, c'est effectivement, soit c'est une qualité, soit c'est justement une rêverie. Je préfère me dire que c'est une qualité. Mais effectivement, je pense que c'est plutôt aujourd'hui positif pour nous de ce qui se passe. C'était une question que j'avais tout à l'heure pour Ludovic, c'est de me dire, est-ce que depuis en réalité qu'il a été élu, est-ce qu'on a plus d'Américains qui souhaitent acheter des biens luxueux en France?
La bonne question.
La réponse, on l'a à peu près. C'est
Ludovic,
à peu près le cas.
Les Américains Ludovic. Investissent plus massivement ces derniers temps, c'est vrai?
Mais c'est très compliqué d'observer le phénomène depuis la nouvelle élection de Donald Trump parce que les délais sont courts. On voit évidemment plein de demandes arriver, mais très généralement, depuis le début de la crise, on voit une accélération des Américains pour acheter de l'immobilier en France. Et je le disais tout à l'heure, c'était le cas des plus grosses transactions qu'on a réalisées dans le groupe Kretz pendant l'année 2023 et 2024. Mais on peut aussi déjà considérer qu'aujourd'hui, en Provence, de mémoire, je crois que plus de 55% des détenteurs et des acheteurs de biens de luxe sont des étrangers.
Wow. Et le deuxième point que j'y pense, on est tous très stressés avec notre livret A. C'est un peu français, mais de se dire à un moment, on a toujours peur qu'on vienne, que l'État à un moment vienne nous ponctionner de l'argent. Donc j'ai envie de dire qu'au contraire, je pense que tous ces éléments-là et tout ce qui existe et ce qu'on voit un peu dans le marchand, par exemple, dans le côté marchand de biens, etc., on voit bien depuis ces dernières années tout ce qui se met en place.
Il le met dans la pierre. Bon.
Je me dis qu'en réalité, je pense que plus que jamais, c'est le moment d'investir de plus en plus dans la pierre pour éviter justement de perdre cela. Et c'est vrai que moi, j'avais une question, en tout cas pour Norbert. Au niveau de, on le voit bien depuis quelques années, vous êtes quand même les premiers dans l'immobilier, je trouve, les plus impactés sur la partie promotion immobilière. On voit bien qu'on a quand même eu un stock d'invendus. On a même des promoteurs qui sont liés à des applis comme showroom privé, vente privée, etc. pour essayer de vendre que de l'eau, si je dis pas de bêtises et tu me reprendras. Du coup, on en est où un peu de tout ça? Est-ce que ça va mieux? Comment aussi on se réorganise? Parce qu'en réalité, avec le coût des matières premières qui avait augmenté, avec les nouvelles obligations, quand on parle de la RT 2020, etc., comment on met tout ça en place? Voilà, j'aimerais bien avoir un peu ton avis et ta vision.
Surtout que la demande, elle s'était littéralement effondrée.
Ben là, ça devrait aller un peu mieux avec ce qui a été mis en place.
La demande est toujours là. La demande, on a toujours besoin de se loger. On vieillit encore, on fait des enfants, on meurt, on se sépare, on vit, donc on a besoin d'immobilier. Donc la demande est toujours là. On n'avait pas l'offre qui correspondait à cette demande. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? En fait, moi, je crois que c'est vraiment le segment du milieu. Quand on est à plus de 8 000 euros en région parisienne, quand on est à plus de 6 000 euros dans les métropoles, c'est ce segment-là qui souffre. Je ne connais pas du tout le segment du Kretz Club. Le haut de gamme, le luxe, je ne fais pas. L'accession, c'est toujours le cœur du business en France. C'était vrai pendant la crise de 80.
La primo-accession.
La primo-accession.
C'est le ventre mou du marché. C'est le moteur.
Alors, moi, j'aurais plutôt dit, c'est le socle.
C'est le socle.
Le socle. D'accord.
C'est le socle. Parce que ventre mou, c'est un peu faible, comme terme. Oui. C'est toujours.
C'est ça qui tracte.
Oui. C'est toujours 40 000 unités par an, même en 91, même en 95, au plus profond de la crise. Alors, quand les taux sont à 1, ça monte à 50. 60 000, tant mieux. Mais les taux, ils ne sont pas toujours à 1%. Donc, le socle, c'est l'accession. Et ce qui souffre, c'est effectivement plus de 6 000 euros dans les métropoles. On est certainement monté trop haut, tiré par l'investisseur.
Donc les prix.
Et quand on est à 8 000 euros en première couronne, d'Île-de-France, notamment tout ce qui est Hauts-de-Seine. Donc, c'est ces secteurs-là qui souffrent. Comment ça s'est passé? On a recyclé sur des ventes en bloc, donc avec notamment du logement intermédiaire. On y a laissé des marges, on y a laissé des honoraires, on y a laissé aussi un peu de capitaux
Norbert,
propres.
Justement, le logement intermédiaire, est-ce que ce n'est pas une alternative intéressante dans le développement et la complexité la pression des prix dans les grandes agglos?
Totalement. On a la chance d'avoir. En France, on n'est pas un pays de propriétaires, mais on n'est pas un pays de locataires. On n'est pas la Suisse,
on est entre les deux.
Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à garder. Il faut qu'on arrive à faire monter le taux de propriétaire à plus de 60%, parce que je pense que c'est aussi l'essence de la France. Il faut qu'on a un socle de logement social assez extraordinaire qui permet de tenir les loyers. Et effectivement, vous avez raison, il faut qu'on fasse plus de logements intermédiaires pour accompagner la mobilité professionnelle. Et moi, je rajouterais la plus grosse contrainte par rapport à ce sujet-là et par rapport à ce que tu disais, Xavier, c'est plutôt la zéro artificialisation, plutôt la contrainte sur le foncier, parce que ce que veulent les Français, c'est être propriétaire d'une maison.
Ils sont 87% à plébisciter l'accès à la propriété et autant à vouloir avoir une maison avec un bout de jardin, bien évidemment, etc. Contre, finalement, un courant, une doxa qui dit, Henri, il faut qu'on arrête l'étalement urbain, etc. Alors moi, j'ai envie de vous interroger sur un projet. Il y a deux projets de loi qui ont été déposés récemment. Il y a la PPL de Charles de Courson sur le statut du BR privé. D'ailleurs, on se demande ce que ça vient faire, puisque le sénateur de Bresse et le député Cosson sont déjà sur le coup pour la rédaction de leur rapport. Nous l'avons interrogé la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Il y a peu de chances que le texte passe, mais on voit que ça vient. Hein. On voit bien que ça vient. Et deux, c'est la loi Trace qui prévoit, vous avez dû l'observer bien évidemment, qui prévoit des mesures d'assouplissement assez drastiques qui pourraient détricoter la loi ZAN. Vous en pensez quoi, Henri ?
Sur le premier sujet, l'espoir d'un statut notamment fiscal, pas seulement, parce que la mise du logement a ouvert la réflexion à d'autres choses. On peut parler de la révision des charges récupérables, un décret de 1987, bon, il s'agirait de l'actualiser. On peut parler d'une plus grande sécurisation du propriétaire. Mais bien sûr, on parle de fiscalité. Ce chantier, il est ouvert officiellement. Bon, alors la filière le souhaitait depuis des années, avec aussi une certaine imprécision. Hein. Bon, là, ça y est, c'est ouvert. Il y a effectivement un ancien ministre et un député qui sont officiellement chargés de rendre un énième rapport. Mais voilà.
Jean-Philippe Daubresse, ministre du Logement, voilà, sénateur, et Michael Cosson.
Et en effet, d'autres députés, dont Charles de Courson, pas n'importe qui, rapporteur général. Mais parce que, d'abord, Charles de Courson a estimé qu'il fallait piquer un peu le gouvernement. C'est ça l'histoire. Maintenant, l'enjeu, c'est Bercy.
Mais il est légitime.
Soyons clairs. Nous, les journalistes, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, attendez, il y a un truc qui ne va pas. On a appelé le ministère, on a appelé le service de communication du ministère en disant, attendez, pourquoi il y a une PPL alors que vous avez mis en place une commission qui va faire l'objet, vous le savez, en juin, d'un examen en vue d'une prochaine PPL ?
Tout à fait.
Réponse légèrement embarrassée, disons-le, quoi. Voilà.
Ah, mais parce que...
Je prends un autre exemple. Nous avons un député, ancien président du Conseil national de l'habitat, qui s'agite beaucoup autour de l'immobilier, sans que le Conseil national de l'habitat, présidé par Anaïs Le Meur, ne soit au courant de ces démarches. On n'a pas l'impression d'une bonne homogénéité, disons-le.
Je ne peux que souscrire à ce constat-là. Je dis simplement, voyons les choses autrement. D'abord, les députés, ils sont libres. Hein, faut pas l'oublier. Donc, qu'on parle de Courson ou qu'on parle de Lionel Cos, ce sont des députés qui ont une vraie existence, et ils font des choses, non pas pour être déloyaux vis-à-vis de leur du gouvernement, voire de leur famille politique, mais parce qu'ils ont envie que ça bouge et ils piquent. Voilà. Donc moi je vois ça. Et en effet, sur la question du bailleur privé, le vrai sujet désormais, il est à Bercy. Et est-ce que Bercy acceptera les services de Bercy, parce que le ministre de l'économie en a envie, mais est-ce que les services de Bercy accepteront un vrai bouleversement, c'est-à-dire en gros l'introduction de l'amortissement, pour le dire d'un mot, qu'on va vers ça.
Mais oui.
Il le faut, il y a enfin une unanimité sur le sujet, ou une quasi-unanimité dans la filière.
Vous êtes en train de dire que les services de Bercy, c'est eux qui décident.
Ah mais bien sûr,
c'est pas les politiques élus, quoi.
Ah mais je pense qu'il y a une forte, bien sûr nous nous voilons pas la face, parce que Bercy, ils sont garants de grands équilibres. On va dire les choses comme ça. Moi je vais pas dire du mal des hauts fonctionnaires de Bercy, tomber dans le poujadisme de base. Ils sont, c'est vrai, attachés à des grands équilibres, et pour faire bouger la citadelle, eh bien, il n'y a pas trop de Coursons, il y a même, semble-t-il, si je ne suis pas mal informé, un petit groupe de travail informel qui s'est constitué à Bercy, en liaison avec le ministère du Logement, mais tout ça, bien sûr, on ne le sait pas. Je veux dire qu'on pousse en mêlée, voilà, autorisez-moi cette expression, on pousse en mêlée aujourd'hui, il faut faire bouger les choses. Moi, j'ai l'espoir, alors, elles sont de combien les chances? 10%, 5%, j'en sais rien, elles ne sont pas de 50 ni de 80. Que dans le prochain projet de loi de finances initiale pour 2026, on ait ce statut. Je le crois. Et puis, avec d'autres, je déploie des efforts, donc je n'ai pas envie de dire ça va échouer. Je continue à y croire. Et on en a besoin. Xavier rappelé, vous l'avez dit aussi, offre locative, elle n'est pas du tout au niveau des besoins. Donc il faut que des investisseurs privés, en particulier sur du logement intermédiaire, on parle de ça, mais des loyers maîtrisés, soit au rendez-vous de l'histoire, dans le neuf, dans l'ancien rénové, je continue à y croire. Le détricotage, je viens au deuxième sujet.
La loi Trace, elle vise à assouplir la norme, et notamment sur le ZAN.
Moi, je ne suis pas candidat, mais comme citoyen, à ce qu'on mette à bas la politique de transition environnementale. Parce que, il y a une urgence à le faire. On va arrêter de faire semblant qu'il n'y a pas de dérèglement climatique avec des conséquences sur l'immobilier. Je ne vais pas abonder là-dedans.
Ce n'est pas ce qui a été dit.
Non, mais je dis ça parce qu'il y a aussi du nihilisme, y compris au Parlement.
Oui.
Et que, par exemple, y a un groupe qui rencontre d'une
grande pensée
qui voudrait mettre à bas le...
Pardonnez-moi, Henri, pour renforcer le clou, parce qu'il faut être très clair. On parlait des ZFE, les fameuses zones à faible émission.
Oui.
On a vu très concrètement que c'était délétère pour des personnes qui n'ont pas les moyens
de
passer à l'électrique, et qu'on n'est pas dans la ville du quart d'heure à Paris, qu'on serait plutôt dans la région des 20 minutes de voiture,
dans les
autres agglomérations.
Ces gens-là, ils
font...
Alors, il ne faut pas exaspérer l'opinion, il ne faut pas l'exaspérer en lui disant « mais oui, on a tellement fermé le truc, plus personne ne peut construire. » Donc, il faut assouplir. Le mot « assouplir », moi, je trouve qu'il est assez clair. Ça ne veut pas dire « on déchire la copie ». Alors, il y a des initiatives parlementaires qui sont un peu là pour provoquer, c'est-à-dire que, on tire un peu au-dessus, comme la théorie de l'artilleur, et puis on sait qu'on va arriver un peu plus bas. Ce sera un assouplissement pour que les maires puissent proposer, effectivement, donner des permis de construire et proposer, avec des promoteurs, une nouvelle offre locative ou en accession. Il faut un assouplissement. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement réalise ça. C'est, me semble-t-il, le regard que Valérie Létard, très pragmatique, porte sur la situation. Je crois que c'est le regard que le Premier ministre porte sur le sujet. Voilà. Donc, il faut peser les mots. On ne déchire pas la copie. Parce que moi, je ne suis pas candidat à ça, mais comme citoyen et comme homme du logement. Mais il faut déverrouiller des trucs, parce que si on dit on ne peut plus... Quand on dit, par exemple, 2050, c'est la toise. Entre aujourd'hui et 2050, c'est un peu loin. Eh bien, est-ce qu'il faut diviser par deux la consommation, comme on l'avait écrit, à 2030? Peut-être pas. Peut-être qu'on va aller moins vite. Mais en 2050, il faudra avoir arrêté l'artificialisation. Moi, je ne reviens pas là-dessus.
Mais on pourrait revenir.
On est le seul pays au monde à avoir réglementé ça. Moi, je dis que je ne vais pas jusque là.
Pourquoi réglementer un sujet? On est le seul pays au monde à avoir créé cette loi-là. On ne va pas, Henri, à 65 millions, changer le dérèglement climatique. Malheureusement, j'aimerais bien.
C'est 70 millions.
Mais quand on se balade un peu dans le monde et qu'on voit le mode de vie, on parlait des Américains, ou quand on se balade en Floride, on a un bateau par villa et quatre voitures. Pourquoi nous, on va réglementer Lausanne alors qu'en Floride, c'est la deuxième ou troisième maison de l'Américain.
Mais on l'a
plus. On est en train de décrocher
économiquement par rapport à beaucoup de pays, et l'immobilier est le moyen de nous raccrocher économiquement.
Alors justement, j'en profite. Ludovic, qu'est-ce qu'ils disent les étrangers quand ils voient notre marché immobilier? Par exemple, la fiscalité, les contraintes administratives, les droits de mutation, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils disent quand ils investissent? Parce que ils aiment investir en France, il n'y a pas de doute. Parce qu'ils savent qu'ils vont conserver leur argent et qu'ils le placeront facilement. Mais quand ils sont américains, je sais que vous avez eu des clients qui sont des gros capitaines d'industrie et qui viennent du monde entier. Comment ils nous regardent objectivement
Alors, c'est très intéressante comme question, Sylvain. Il faut savoir que déjà... dans le luxe, on considère qu'une personne achète en France très majoritairement pour en profiter. Il ne va pas pratiquer du locatif. Il a moins cette logique de rendement.
Et il achète cash.
En revanche, si on parle plus globalement de comment les étrangers voient, j'ai envie de dire, notre politique régulatoire et fiscale en France dans l'immobilier, c'est sans surprise que je vais vous dire qu'ils trouvent ça extrêmement lourd. Et d'ailleurs... c'est aussi dans cette démarche, je pense, que on voit de plus en plus dans des pays occidentaux l'avènement de mouvements très libertariens. En fait, Elon Musk et Donald Trump arrivent très fort aux États-Unis, qui ont besoin d'un interventionnisme de l'État bien moins prégnant, chose que on a chez nous. Économiquement, très clairement aujourd'hui, on a besoin de relever les économies du pays, et la collecte en termes de TVA et d'impôts s'amenuise, et forcément ça se retrouve dans les impôts d'une économie qui est les plus fortes en France, et c'est-à-dire l'immobilier, combiné avec toutes les normes et les régulations. Très souvent, les étrangers trouvent ça très très lourd en France.
Et ils ont certaines mesures assez raison. Alors, je vais pas entrer dans les détails, mais ils achètent aussi via, on peut le dire, des véhicules juridiques qui contournent de façon extrêmement claire J'ai pas dit magouille ou quoi que ce soit. J'ai dit contourne des effets obligatoires sur la fiscalité, sur la détention, sur les domiciliations fiscales qui font que, parce que quand on a de l'argent, eh ben c'est plus facile à la vitesse de la lumière de faire transférer ses capitaux que lorsqu'on est sur des crédits de 25 à 30 ans. Mais c'est intéressant de voir réaction sur ce que vient de nous dire Ludovic de Jouvencourt, Xavier, sur la vision qu'ont les étrangers sur notre pays.
En fait,
clairement,
cette vision,
ils trouvent ça très lourd. Hein.
Moi, je viens du retail, donc en réalité, cette vision, je l'entends et je la partage depuis plus de 20 ans. J'ai bossé pour le groupe MacArthur Glen. C'est des éléments que je voyais en fonction des enseignes qui voulaient s'installer en France. C'est une réalité. J'ai pas réellement d'avis.
Mais ça vous plaît l'idée libertarienne de dire l'état minimum, qu'il y a moins de trucs, plus d'initiatives individuelles.
Je vais plus loin que ça.
Il le faut bien sûr, et simplifier, alléger, c'est pas à côté de Lambert Fanchon, je veux dire autre chose, les promoteurs, il y a 6000 normes qui pèsent sur chaque promoteur qui bâtit un malheureux immeuble en France. Bon, donc tout ça est vrai. Revenir en arrière n'est pas facile. Je précise aussi que c'est le fruit de lobbying aussi, ouais,
C'est pas ce qu'on dit, je dis juste qu'aujourd'hui, la réalité du terrain, quand tu fais de l'immobilier depuis un certain nombre d'années, avant on disait que petite couronne de Paris, c'était 4 km autour de Paris. Aujourd'hui, ouais, tu dis vrai. Quand même que la petite couronne de Paris, c'est jusqu'à 30 bornes.
Absolument.
Grosso, maintenant, quand tu habites Roissy-en-Brie en Seine-et-Marne, tu fais partie de la petite couronne.
Mais on a mis
tout un dispositif. Justement, on a déjà dû. Naturellement, il n'y a plus de terrain. Donc, si tu veux, arrive un moment, on peut me raconter toutes les conneries qu'on veut. Et c'est pas au fin fond de la Lozère qu'on va aller s'installer. Et là, il n'y a pas de problème d'artification. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais il faut juste qu'on soit un peu cohérent. Parce que si tu veux aller vers Cap-Breton, Osgore, etc., là, ils ont pas de problème.
Mais si on va plus loin... Ben,
il a raison.
J'ai de l'argent aujourd'hui, je vais m'installer en Italie. Si j'ai de l'argent et que je choisis mon pays de résidence, je vais dans un pays où la fiscalité est sympa.
Moi, je vais au Portugal.
Voilà. Alors, le Portugal, moins bien maintenant, mais maintenant, avec l'impôt minimum à 100 000 Italiens, il faut aller en Italie.
Est-ce qu'il
faut déréguler l'État ? Moi, je ne le crois pas. On a trop de bénéfices individuels.
C'est bien de le dire. On est un pays
qui
protège.
On
est un pays qui protège. Est-ce qu'on a 6 millions ou presque de logements HLM ou ce que ça devrait être aux États-Unis, c'est-à-dire peut-être, je ne sais pas, 60 millions ? La réponse est non. Bon, on a une politique du logement. Elle a plein de défauts. Il faut arranger les défauts sans perdre les qualités. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais il ne faut pas oublier les qualités. Il a raison, Norbert. Il ne faut pas oublier les qualités.
Pardonnez-moi. Henri, soyons objectifs. On a comparé le nombre d'autorisations d'urbanisme. Il l'a écrit, Norbert, et tout le monde l'a écrit.
Je sais ça.
On a comparé le volume de stock. Vous savez quoi ? C'est le plus bas niveau depuis 1950.
Je vais même vous dire mieux.
Nous avions éradiqué dans les années 70, vous le savez, les bidonvilles. On voit renaître des bidonvilles. Il y a un livre qui va paraître qui s'appelle La génération bidonvilloise. Et vous savez parmi qui il y a les bidonvillois ? Il y a les étudiants qui dorment dans leur voiture pour ne pas rater leurs études.
Je le sais. Je veux pas qu'on fasse du Trumpisme à bon compte. Je n'en veux pas qu'on érige en modèle mondial les États-Unis parce que je souscris pas à ça.
Quand tu dis, parce que je me rends compte que t'es de gauche, donc c'est intéressant.
Non, c'est pas le débat. Pitié, pas ça. Je suis ni de droite ni de gauche. Je ne fais pas de politique. Je suis un acteur du logement. Voilà.
Non mais Henri, soyons critiques sur la politique du logement.
Je le suis. Ça fait 35 berges.
Les Français sont mal logés. Il y a 2 700 000 personnes. Mais voilà.
Et Sylvain, vous savez les combats que je mène là-dessus.
Sylvain, aller en dehors de notre pays. Et voir ce que c'est que le mal logement.
On ne peut pas dire ce qui se passe ici.
Je l'entends,
mais
je suis désolé.
On ne peut pas toujours voir
le verre à moitié vide.
Mais quand vous voyez des bidonvilles, vous dites qu'on vit en France.
Mais des fois, ils sont démultipliés.
Est-ce qu'on peut faire l'apologie de la dérégulation de machin ? Et Norbert vient de dire les choses très précisément. Je dis que non, c'est tout. C'est ça que je dis. Et ce qu'il y a de bon à prendre, plus de liberté, plus de souplesse, etc., prenons-le. Comme pour toute chose, prenons le meilleur et excluons le pire. Il y a le pire aux États-Unis. Je suis désolé. C'est un pays où il y a la moitié du pays qui est dans le malheur.
Ludovic n'a pas encore pris son passeport américain. Il gère quand même un groupe important et il a vu son marché se rétrécir de moitié. Il a le droit de se poser la question. Combien de promoteurs ont été liquidés en 2024? Moi, j'ai le chiffre.
J'ai pas le chiffre.
123. Est-ce que vous savez, Henri, combien d'emplois ont été détruits dans la construction? Vous le savez?
Mais je
plus de 100 000 emplois. Dire,
voilà. Mais on ne va pas me faire le procès d'être, de souscrire à cette situation.
Mais ça n'a rien à voir avec la régulation. On a un président de la République qui a détruit l'immobilier depuis 2017. C'est ça le sujet.
Merci de le dire.
Ah oui, non, mais c'est comme ça. C'est un mouvement de l'histoire.
Voilà, un mouvement de l'histoire, absolument. Juste un commentaire rapidement. On va devoir.
C'est vrai que pour prendre le leader de la promotion en France, Nexity, quand on regarde leur dernière communication financière, leur dernier. Documents financiers, on voit que ce sont les premiers à souffrir, à se restructurer en profondeur.
Donc on voit bien que le marché. Alors, j'aimerais bien qu'on fasse beaucoup plus longtemps, mais voilà, on a quand même un calendrier contraint.
Et j'étais chaud là, on va pas arrêter.
On va
faire venir un invité complémentaire.
On a notre ami Ludovic Usieux qui doit être en ligne pour notre deuxième séquence. Mais c'est intéressant parce qu'on a suscité le débat et le débat, une chose que j'apprécie, c'est qu'il reste politique, il est politique, on a toujours dit qu'il était politique. Et je trouve que c'est intéressant. Encore une fois, l'avantage du débat, c'est un signe de vitalité démocratique. Oui. Hein, parce qu'il y a des pays où on ne peut plus débattre.
Et quelle place pour l'État ? C'est une grande question à l'effet.
C'est une vraie question.
Bien sûr.
C'est important d'en débattre dans une démocratie qui est encore une démocratie, surtout dans notre pays. Il faut garder ce modèle. Un immense merci, Norbert Ponchon.
Merci,
toujours
Sylvain.
Un plaisir. Changez rien sur LinkedIn, mais vous n'oubliez pas de mettre... C'est le même livre lancé à chaque fois. Non, je vous taquine. Voilà, président du groupe Gambetta. On va se revoir d'ailleurs, je vais vous programmer sur Sud Radio, vous serez avec nous également.
Avec grand plaisir.
Pour la foire de Paris, je rappelle qu'on sera en direct avec Cécile de Minibus pour les vraies voix responsables. Le 30 avril, voilà. Mais oui, mais la foire de Paris, c'est 500 000 visiteurs, mon cher Henri. Voilà, il y a beaucoup de monde. Voilà.
Mais j'y serai, je serai parmi les 500 000.
Dans le concours Lépine, d'ailleurs.
Voilà.
Moi, j'irai à la foire au vin.
Merci. Moi, j'aime bien Xavier Lépine.
Voilà. Il est avec nous ce soir dans le grand jury. L'immobilier.
C'est lui qui organise le concours.
Voilà, grand jury de la presse immobilière. Merci Henri, président de l'IMSI, officier.
Et je suis élégant parce qu'il m'a battu dans le classement des 20 plus grands influenceurs de l'immobilier. Je parle de Norbert et que je suis quand même à son côté. Voilà,
voilà c'est bien.
Je me trouve élégant.
J'ai accepté que c'est bien.
Oui, aussi. Malgré ma médiocrité.
C'est ce qui nous a glissé tout à l'heure.
Eh bien écoutez, nous avions la Kretz Family, maintenant on a The Franchon Family et l'univers, l'empire de Henri Buzicazo. Voilà, merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Un immense merci à Ludovic de Jouvencourt qui est avec nous en duplex sur justement la direction générale que vous avez prise sur le Kretz Club. On va recevoir Alexandre Bruno, le directeur général de Kretz Real Estate sur Sud Radio également. Merci d'avoir pris le temps de nous avoir éclairé. Vous revenez, Ludovic,
avec grand plaisir.
Qu'on s'est retrouvé. Voilà, vous êtes chez vous ici sur Radio Immo et mes amitiés à la famille Kretz, bien évidemment. Un immense merci également à Julien Gamiette de Format 15, qu'on vous retrouve tout à l'heure justement pour le Lab dans l'émission. À suivre, nous allons décrypter le vrai du faux. On va parler des taux d'intérêt, des taux de crédit avec Ludovic Usieux qui sera en duplex avec nous, qui est le cofondateur d'Artemis Courtage. C'est tout de suite après ça. Vous êtes de retour sur le plateau de Débat Immo pour cette nouvelle édition où on a parlé de géopolitique, on a parlé de politique du logement, bien évidemment. Un débat très animé, extrêmement intéressant, encore une fois. C'est toujours agréable, mon cher Xavier, de disserter et de permettre, effectivement, c'est aussi grâce à vous qu'on le fait, le débat dans un milieu qui parfois a toujours la tête dans le guidon. Qui
de prendre un peu de hauteur.
De prendre de la hauteur. Alors pas trop, parce qu'après on ne nous verra plus si on est trop haut.
Oui, puis vous n'êtes pas trop grand, ça ira.
Mais ça, voilà, prends ça dans la tête. Il est, ça fait plaisir d'avoir des amis sur le plateau. Merci Xavier, je vous voudrais ça. Alors, nous avons, pour cette nouvelle séquence, vous savez, chaque débat IMO, on fait une séquence sur, on vous détéricote un petit peu le vrai du faux, pour y voir plus clair. Là, on va parler des taux d'intérêt. Nous avons en duplex, il est avec nous au téléphone, c'est Ludovic Usieux, le cofondateur d'Artemis Courtage. Bonjour Ludovic.
Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec nous. Alors, première question Ludovic, on nous pose la question, est-ce qu'on peut faire un point sur le niveau des taux à l'instant T, des taux d'intérêt ?
Alors, on va faire un point durée par durée, si vous voulez bien. On emprunte aujourd'hui sur 20 ans en taux moyen à 3,30 en taux fixe. Ça monte à 3,50, 3,60 sur 25 ans. Et puis, on est toujours aux alentours de 3 sur 15 ans et moins.
J'allais dire, c'est presque une bonne nouvelle quand je l'entends comme ça.
Bah, écoutez, on a eu quand même quelques appréhensions au moment de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Les marchés ont été... très nerveux, très tendu, ça a provoqué une poussée des taux sur les marchés obligataires qui s'est poursuivie et qui a eu pour conséquence indirecte petit soubresaut, une petite hausse sur les taux de crédit immobilier. Et puis, depuis 15 jours, tout est en passe de rentrer dans l'ordre. En tout cas, on revient dans une phase de stabilité qui est plutôt rassurante.
C'est ce que vous rappeliez tout à l'heure, Xavier Balot.
Exactement.
Hein, sur l'impact. Alors, ça a surpris tout le monde, d'ailleurs, hein, que, en fait, l'impact aurait pu être considéré comme négatif de l'élection de Donald Trump avec ses discours un peu particuliers, a eu pour effet, effectivement, de faire baisser les taux lorsqu'il est remonté légèrement. J'ai une autre question. Justement, vous avez dit donc 20 ans à 3,30 taux fixe, 3,50 sur 25 ans, et on peut espérer 3%, voire un peu moins sur 15 ans. C'est bien ça?
C'est bien ça, je vous le confirme.
Est-ce que les banques reprêtent vraiment? Est-ce qu'elles ont réouvert les vannes? On a vu que les banques de détail sont en train d'essayer de reconquérir des clients parce qu'il y a une très forte érosion sur 2024.
Mais on le voit notamment avec la Société Générale, je crois, qui aujourd'hui proposait un taux à moins de 3% de 99 sur des projets immobiliers, notamment. Et je pense qu'eux ont été victimes, justement, les premiers. Et ça, j'aimerais bien entendre Ludovic à ce sujet. Parce qu'on voit qu'ils ont fait un peu de dumping, en tout cas, auprès des courtiers pour essayer de récupérer un maximum de dossiers depuis le début de l'année. Je ne sais pas ce qu'en pense Ludovic.
Vous avez parfaitement raison, Xavier. Y a deux indices qui sont des indices conséquents. Le premier, c'est que toutes les banques sont revenues à la table du crédit et toutes les banques aujourd'hui sont prêteuses. Sans exception, ce qui n'était vraiment pas le cas en 2022-2023. C'était beaucoup plus compliqué, et même au début de l'année 2024, on avait un niveau d'engagement, niveau crédit immobilier dans les banques qui était aléatoire, pour pas dire autre chose. Aujourd'hui, toutes les banques sont revenues à la table du crédit, c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'elles communiquent à nouveau, par le biais d'offres commerciales ou d'offres marketing à destination des primo-accédants, et l'offre Société Générale en est le bon exemple. En février-mars, il y avait un taux unique de 99% sur les durées de 10 à 20 ans pour à peu près tous les projets, tous les profils d'emprunteurs. D'autres banques, puisque j'ai cité la Société Générale, d'autres banques comme les banques populaires, le Crédit Agricole, donnaient des coups de pouce avec des poches d'argent à taux bonifié.
Oui, on l'a vu d'ailleurs avec l'offre Nexity sur leurs appartements, leur stock. Ils ont mis en place une offre avec le Crédit Lyonnais qui s'apparente à un deuxième PTZ et qui leur permet vraiment considérablement d'augmenter les apports pour les crédits. Et
nous, ce qu'on a remarqué également, Ludovic, depuis le début de l'année dans l'immobilier, c'est qu'aussi les banques des clients, c'est-à-dire la banque, se battent un peu plus pour conserver justement leurs clients pour éviter de la décollecte. Et je le vois bien au niveau d'un certain nombre de courtiers avec qui on travaille et on collabore. D'abord, c'est un peu le retour qu'on a. Quel est ton avis sur ce point-là?
Alors, en défensif, les banques l'étaient déjà un petit peu. Hein, c'est-à-dire que au moment où il n'y avait plus beaucoup d'appétit pour le crédit immobilier dans les banques de réseau pour des considérations de marge pincée ou de marge zéro ou de marge négative sur les taux, elles continuaient quand même à faire un effort sur leurs clients historiques, patrimoniaux, qui leur apportaient un PNB conséquent. Aujourd'hui, au-delà de vouloir conserver leur clientèle existante, elles sont à nouveau en phase de conquête. C'est là qu'est quand même la nouvelle donne de l'année 2025. C'est qu'après deux années un peu recroquevillées, en retrait, les banques ont à nouveau envie de conquérir une nouvelle clientèle. Et le produit le plus opportun pour ça, c'est quand même le crédit immobilier.
Et même pour les investisseurs, aujourd'hui, est-ce que ça s'est reparti aussi pour les investisseurs ou pas?
C'est un peu plus compliqué, hein, niveau investisseur. Je vais pas vous dire le contraire.
Vous parlez de l'investissement locatif, là, Ludovic?
Oui, bien sûr. Oui. Investissement locatif. Les projets pour lesquels vous n'envisagez pas d'habiter à titre de résidence principale, le bien que vous financez.
C'est plus compliqué.
C'est plus compliqué. Disons que les banques ont moins d'appétit, font moins d'efforts sur les taux, parce qu'il y a moins de contrepartie, en général un peu plus de volatilité de la part des clients, et que ce n'est pas le cœur de cible des banques aujourd'hui.
Oui, ils font attention au volume d'endettement global.
Question, celui qui est primo-accédant ou celui qui a pris un crédit sur sa maison, qui veut devenir également investisseur, est-ce que la banque le favorise plus parce qu'elle veut le garder comme client.
Je vais laisser, pour ma part, en tout cas, ma vision de l'immobilier est très simple. Ça va dépendre de son taux d'endettement global, en réalité, de ce que va lui permettre aujourd'hui, ce qui va lui rester en termes de CAF, de reste à vivre.
Hein. Malgré la dérogation dont peuvent bénéficier les banques. C'est quoi votre avis sur la question ? Est-ce que les banques, justement, dans leur volonté de conserver leurs clients, pourraient également leur favoriser à leurs clients qui sont déjà en compte sur leur résidence principale pour leurs investissements ou leur épargne ? Épargne immobilière, j'entends.
En deux phases. Hein. La première phase, c'est de s'assurer que, effectivement, ces clients sont solvables une nouvelle fois et que le taux d'endettement, nouvelle opération comprise, n'excède pas 35% assurance incluse. Une fois qu'on a un accord sur les risques, effectivement, les banques sont plutôt conciliantes, notamment sur les loyers à venir, la pondération. Elles sont plutôt plus sympas aujourd'hui qu'hier parce qu'elles sont enfermées dans ces normes HCSF et ces taux d'endettement à 35% qui les empêchent aussi de prêter à des investisseurs qui sont solvables mais qui ne rentrent pas dans les cases HCSF, même avec la dérogation de 20%.
Dernière question. Est-ce qu'on peut faire une projection sur jusqu'à la rentrée de septembre? Est-ce qu'à votre avis, les taux vont se maintenir plutôt à la baisse ou est-ce que finalement, bien malin celui qui donnera l'alpha et l'oméga dans les semaines qui viennent?
Alors, on a appris à être humble hein, de ce côté-là et éviter l'incantation, la divination sur les taux de crédit, surtout en ce moment où ça change à peu près tous les mois, toutes les semaines en fonction des nouvelles outre-Atlantique ou même des banques centrales. Je pense moi qu'on est entré dans une phase de stabilisation. En réalité, il va y avoir des soubresauts, des ajustements, mais ce qu'on a comme condition aujourd'hui. Il y a de bonnes chances ou de bonnes probabilités en tout cas pour que ce soit les taux qui seront encore en vigueur à la rentrée de septembre, voire même à la fin de l'année 2025.
Merci beaucoup Ludovic Usieux. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Artemis Courtage. Pour toutes ces précisions, voilà, on vous a donné un petit peu l'information du jour. Je rappelle les principales informations. On sait qu'on peut emprunter sur 20 ans à 3,30 assurance comprise, à 3,50 également sur 25 ans, et on peut bénéficier avec un taux ou peut-être légèrement au-dessous, comme l'a rappelé Xavier Bellevaux. Merci à vous.
Merci. Merci.
Alors, on continue notre programme justement pour notre dernière intervention, ça s'appelle le Lab, où on va faire un focus sur les innovations dans l'immobilier tout de suite après. Voilà, de retour sur le plateau avec Débat Immo, avec vous Xavier Bellevaux. On décide chaque fois que nous faisons une émission ensemble de faire un focus sur une innovation. Et là, pour le coup, nous allons faire un focus sur une société qui s'appelle Formacast, ou comment l'IA peut aider à favoriser le business à travers la maîtrise du droit immobilier. Bonjour, rebonjour Julien Gamiette, patron de Formacast. En quelques mots, vous allez nous expliquer Formacast, ça fonctionne comment?
Alors d'abord, l'idée avec Formacast, et plus particulièrement avec le Live Coach, qui est le produit dont je vais vous parler aujourd'hui.
Live Coach,
c'est comme ça qu'on l'a appelé. L'idée, c'est de transformer l'obligation de formation des professionnels de loi Huguet, donc...
Loi Allure.
Voilà.
14 heures de formation par an.
14 heures par an, 42 heures tous les 3 ans. De transformer cette obligation en une opportunité de devenir plus performant. Plus performant de quelle façon? D'abord en se différenciant de ses concurrents, en étant plus à même de remplir son obligation de conseil vis-à-vis des clients, parce qu'on connaîtra mieux les subtilités du droit, et elles sont nombreuses, qui s'appliquent au métier des agents immobiliers et à l'exécution d'une transaction. Donc se différencier, sécuriser ses revenus à travers des mandats plus solides, et puis améliorer sa gestion des situations complexes quand il y a une complexité juridique dans l'exécution d'un mandat et dans l'accompagnement d'un client. Et donc,
Et justement, dans les faits, comment ça marche? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça se rapproche aujourd'hui d'un doctrine.fr qui nous permet d'avoir un certain nombre d'informations juridiques directement? On est sur... comment on traduit ça?
Il y a une petite ressemblance, oui. Sauf que ici, on ne s'adresse pas à des juristes. Mm-hmm. On s'adresse vraiment à des professionnels de l'immobilier, typiquement des agents immobiliers, qui vont avoir en permanence dans la poche une application avec laquelle ils peuvent discuter, à l'écrit ou à l'oral, poser leurs questions.
Donc demain, ça veut dire que vous remplacez ce qu'on appelait à l'époque Business Field, qui était un peu la hotline juridique dans l'immobilier, qui est devenu SVP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes directement... on a une question sur un bail, sur une problématique, sur une location, on l'envoie directement, on a notre réponse en instantané.
Exactement.
C'est l'IA qui aujourd'hui reprend l'ensemble des docs, des jurisprudences qui sont présentes, c'est ça ?
Exactement.
D'accord.
Exactement, c'est une IA qui est alimentée avec un très gros corpus juridique, qui a été conçu par les experts de PharmaCast, qui sont des formateurs, qui forment tous les jours des professionnels du secteur immobilier.
Alors ce corpus, donc,
vous envoyez des requêtes de PharmaCast. Est-ce qu'on a l'engagement de PharmaCast, du coup, sur la véracité de ce qui est écrit ou pas? Parce que ça, c'est toujours la problématique qu'on a aujourd'hui avec une hotline juridique. L'hotline juridique, elle nous répond, mais elle ne nous écrit jamais. Elle nous dit, après, il faut passer au stade d'avocat. Donc là, aujourd'hui, ça veut dire que vous nous écrivez dans le forum de l'application, etc. Et demain, imaginez que vous ayez dit une bêtise, demain pour le conseiller immobilier, comment ça se passe?
Alors attention, il y a un sujet, en tant que juridique, c'est important, mais on va le préciser, c'est qu'il y a une obligation légale lorsqu'on dispense un conseil. C'est-à-dire que celui qui dispense un conseil juridique doit revêtir ce qu'on appelle des conditions de capacité ou des conditions d'honorabilité. C'est le cas des avoués, c'est le cas des huissiers, c'est le cas des avocats et des notaires, qui sont soit dépositaires de la signature publique, soit dépositaires d'un savoir. Ce que dit Xavier a beaucoup de sens.
Oui.
C'est pour ça que les hotlines juridiques ne peuvent pas s'engager, parce que précisément ils n'en ont pas la capacité juridique. Si c'était un avocat qui répondait et qui revêt la capacité, là, effectivement, ça s'apparente à une consultation.
Exactement.
Mais c'est pour ça que la question est
donc
très précise.
Question,
si cette question, vous avez levé cette problématique-là, cette contrainte-là, qui est très forte, demain, ça veut dire que pour nous, dans l'immobilier, c'est exceptionnel.
Oui, absolument.
Donc c'est pour ça que je suis vraiment dans l'attente de la réponse.
Question. Donc la question est évidemment extrêmement pertinente, et c'est là qu'on est très attentif. Ce qu'on vend, ce n'est pas de la consultation juridique, parce qu'en effet, on ne vend pas des... ce que vous achetez, en fait, c'est de la formation, ce ne sont pas des honoraires de conseil. C'est de la formation.
D'accord.
C'est-à-dire que...
C'est de la formation juridique, sans revêtir une capacité quelconque qui nous amènerait, par exemple, à perdre du conseil.
Voilà, ça n'est...
Par contre, la question est importante, c'est sur la véracité. Je ne sais pas si c'est le terme adapté. J'ai posé une question juridique de mandat ou de succession. Est-ce que la réponse qui va m'être donnée par le chat...
peut être délivrée au client?
Peut être restitué au client, parce que c'est ce que va... Et donc la formation, c'est bien ça l'objet.
Voilà, c'est ça. Et donc, je vais vous répondre très, très clairement, oui. Et qu'est-ce qui me permet de le dire, c'est que cet outil, on l'a fait tester par des juristes, par des avocats, et on a obtenu l'homologation de cet outil de formation par le Conseil national des barreaux.
Ah ben voilà, réponse.
Très bien.
Réponse.
Et ça coûte combien, du coup?
Très bonne question.
Non, mais le prix d'entrée pour un utilisateur individuel qui voudrait obtenir des attestations de formation de 14 heures, il est aujourd'hui à 19 euros par mois. Donc pour 19 euros par mois, vous avez en permanence un assistant
juridique.
Formateur.
Attendez, c'est un assistant formateur qui donne des cours de droit.
Donc tout ça tout à fait, qui répond à vos questions.
Oui, mais attendez, c'est des cours, il y a des modules, il y a de l'écrit.
Voilà. Donc pour rentrer plus précisément dans la façon dont ça fonctionne, vous avez un parcours. Parce que pour être Calliope, donc PharmaCast
agréé Calliope.
Et Calliope. Donc vous avez un parcours de formation. Vous avez au départ un QCM dans lequel vous répondez dans le chat. Ça permet aussi de vous positionner et donc de déterminer le niveau de technicité des réponses que vous allez obtenir après. Vous avez un certain nombre de thématiques à consulter de façon obligatoire, parce qu'on reste un organisme de formation, donc on considère que chaque personne doit passer par la consultation d'un certain nombre de thématiques.
Par exemple, est-ce que l'obligation qui oblige, par exemple, sur la déontologie d'avoir un certain nombre d'heures, c'est aussi inclus?
Voilà, donc si vous voulez votre déontologie, vous l'obtenez là. Donc il y a ce parcours, et ensuite il y a une grande liberté, et c'est là que je pense que ça peut plaire à beaucoup d'agents immobiliers, beaucoup de professionnels, une grande liberté pour poser ses propres questions. Ça peut être la définition d'un terme juridique, ça peut être une question beaucoup plus d'actualité.
Ça veut dire qu'en fait c'est un cours de formation dans lequel financièrement, au lieu qu'on m'enferme dans un programme pré-défini indépendamment des obligations que ça suppose, qui permet de personnaliser sur mesure chaque parcours.
Exactement.
Et ça s'adresse à quoi ? Des transactionnaires, des agents immobiliers, des
typiquement, oui.
Négociateurs,
oui. Voilà.
Okay. Plutôt transactionnaires, pas gestionnaires locatifs.
Alors, aussi gestionnaires, en fait, aux professionnels ou aux guets, donc aussi gestionnaires locatifs, même au syndic.
En fait, aux professions réglementées.
Et aujourd'hui, ça fait combien d'heures en volume disponible sur la formation, si on parle en contenu d'heures, sur la plateforme, pardon ?
Oui, vous pouvez choisir 14 heures ou 42 heures en fonction de votre...
Et vous avez d'autres modules enrichis, j'imagine, ou pas du tout ? Pour l'instant, on est vraiment sur les 14 et 42.
Pour l'instant, on est vraiment sur les 14 et 42.
D'accord. Et les sources qu'on a derrière en IA, aujourd'hui, vous utilisez quel type de sources ?
Alors, les sources qu'on utilise, c'est le droit français, tout simplement.
La question est très précise. Vous utilisez une forme de chat GPT, hein, un peu de chat GPT, une IA boostée, mais dans laquelle vous avez fait vos propres requêtes. Parce qu'en fait, pour alimenter l'IA, il faut lui donner à manger.
Exactement.
Et donc, vous avez alimenté vos propres requêtes. Avec Xavier, si demain on se met sur ChatGPT, on pose une question sur le mandat, il va nous répondre.
Il va vous répondre, va et vous nous répondre. On ne fait pas ça.
Voilà. Non, mais c'est important. Quelle est la valeur ajoutée de votre application ? C'est que vous avez nourri l'IA, qui serait la même en général sur un ChatGPT ou autre, ou un OpenAI par exemple, sauf que vous l'avez nourri avec vos propres requêtes. Donc vous avez qualifié.
Exactement.
Et pour accéder à cette qualification qui est très nourrie, donc vous avez veillé effectivement à ce... C'est ça en fait vous
Et
dites
ça c'est avec nos formateurs qui sont des juristes.
C'est plus simple en
termes de fiabilité, si on compare justement à INA, non traité comme ChatGPT, mais qui évolue très vite, que c'est une des choses qui évolue le plus vite chaque jour,
ouais.
Parce que c'est ouvert en public, c'est abondé en permanence.
Ouais.
Aujourd'hui, vous, votre fiabilité aujourd'hui de réponses qui sont apportées sur les questions qui sont posées.
Elle est, en fait, on a 100% de réponses extrêmement justes.
D'accord.
Voilà. Remarquez, pour avoir la validation formelle, vous avez une validation formelle du Conseil des barreaux.
Exactement.
Je pense qu'on peut pas obtenir mieux, hein, franchement. C'est peut-être une idée, mais je suis pas sûr que ce soit déontologiquement possible, mais qu'il y ait des avocats en front line, c'est-à-dire qu'en back office, qui valident avec là-dessus, mais ça pourrait être une dimension intéressante.
Ça pourrait être en développement.
Il y a déjà eu des avocats qui ont tenté de faire ça, et ouais, c'est assez vite énergivore et problématique au bout d'un moment.
Ouais, quand on paye, donc Calliope, ça permet donc de déduire donc le budget de formation. C'est bien ça.
Ouais.
Soumis à la TVA, pareil, classique, basique.
C'est un prix hors
TVA. 19 euros, TTC ou hors taxe ?
À l'utilisateur.
C'est net de TVA, c'est-à-dire que la TVA ne s'applique pas.
D'accord.
Donc c'est 19 euros.
TTC.
À l'utilisateur ou à l'agence ? J'ai un point de vente avec 10 collaborateurs, est-ce que grosso modo c'est 19 euros pour une vente ou est-ce que c'est 19 euros de l'utilisateur?
Ouais. Alors,
c'est par utilisateur, je pense.
C'est par utilisateur.
D'accord.
Ensuite,
ce qui fait
qu'en
réalité, quand on compare sur utilisateur, aujourd'hui c'est un coût quand même assez important. Quand on compare une licence Google complète avec toute la suite, aujourd'hui on est quand même sur des prix qui sont moindres.
Mais elle n'est pas qualifiée pour l'immobilier.
J'entends, mais je dis juste qu'en réalité, quand tu es pauvre agent immobilier, comme beaucoup nous sommes.
C'est vrai qu'ils sont pauvres les agents immobiliers.
Non, mais et surtout depuis ces dernières années, mais que tu ajoutes un nombre incalculable de frais, effectivement, il faut l'appréhender, le temporiser.
Ouais. Ce montant-là, vous le retirez aussi de ce que vous payez avant en formation. Mmh. Et vous le regagnez aussi par la qualité de la formation.
Mmh. Oui. Et du chat.
Oui,
parce que du
coup,
on a un chat. Et est-ce que le chat, il est traduit par une application réelle ? Est-ce que c'est une application Formacast aujourd'hui qu'on a sur le téléphone ?
C'est mieux que ça. Ouais. C'est mieux que ça, vous n'avez pas d'application à télécharger.
D'accord.
Vous vous connectez en ligne et vous arrivez directement sur un chat.
Et c'est total responsive.
Oui, quel que soit l'appareil que vous utilisez sur votre ordinateur, votre smartphone, n'importe lequel.
Ben merci beaucoup.
Écoutez, c'est très compétitif. Non, mais c'est très compétitif parce que je peux comparer avec d'autres offres, etc. Mais effectivement, si ça coûte, j'ai dit négociateur, si ça coûte 250 euros par mois, parce que c'est ça en fait l'idée.
Après, il y a des négociations au volume.
Il peut pas s'empêcher. Et donc 250 balles par mois, effectivement, ça fait 3 000 euros. Encore une fois, c'est imputable au titre du marché de la formation. Faut juste voir le CAPEX, c'est-à-dire le ROI que ça peut générer. Mmh. Mais effectivement, le gros problème qu'on a dans le droit, et ça, Xavier aussi le sait, c'est qu'il y a pas mal d'ouvertures sur des OpenAI, ChatGPT, sur des suites logicielles qui sont très de bonne qualité. Le problème, c'est la qualification. Encore une fois, toujours le même sujet. C'est pas généralisé. Donc, vous, ce que vous avez fait, c'est que vous avez créé un tube, vous êtes sur un segment et vous n'en avez pas bougé, on est bien d'accord là-dessus.
Exactement. Voilà. Exactement. Et vous auriez d'autres moyens d'obtenir certaines réponses à vos questions juridiques. Le plus souvent, ça vous coûtera plus cher. L'avantage aussi ici, c'est que le temps que vous passez dans l'application, c'est du temps de formation. À la fin, vous obtenez
une attestation de livret.
Oui. Alors, l'adresse du site internet www.formacast.org. Voilà, on va mettre l'URL, puisque l'objectif de WeInvest avec Débat Immo et nous, bien sûr, Radio Immo, c'est de promouvoir également les innovations dans les métiers de l'immobilier. Voilà. Merci, Julien Gamiette, d'être venu sur le plateau. Émission, bien sûr, de WeInvest, qui est à réécouter sur toutes les applications, ainsi que l'application native de Radio Immo. Je rappelle que vous pouvez la télécharger gratuitement. On va se retrouver pour un prochain numéro de Débat Immo. Voilà, c'est vous. Et pour une fois, je vais vous laisser le mot de la fin, mon cher Xavier Belbeau.
Eh ben, j'ai passé un bon moment. On avait des invités très riches et avec beaucoup de sujets passionnants. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine édition.
Voilà, Débat Immo, c'est l'émission qui vous permet de débattre, de donner vos idées, effectivement, et de prendre, comme le dirait très justement Xavier Belbeau, de la hauteur. On se retrouve pour un prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve bien sûr dans l'immobilier au quotidien pour satisfaire et réaliser les rêves des Français. À plus tard.
Débat Immo, une émission proposée par WeInvest, à réécouter et télécharger sur Radio Immo, Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.